J'ai dit bienvenue au nouveau chemin de la connaissance. J'aurais pu ou peut-être dû dire bienvenue dans les nouveaux chemins. À vous, chers auditeurs, de nous dire ce que vous préférez, puisque cette question n'est pas tranchée et fait l'objet d'un débat théologique au sein de notre fine équipe. L'équipe, justement, des nouveaux chemins de la connaissance. Dans le camp des hauts nouveaux chemins, vous trouvez Geneviève Méric et Avril Ventura. Dans le camp des dans les, vous avez Adèle Van Rett, Vanina Mozzi-Conacci, Mathilde Unger et moi-même. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Pour bien faire, il faudrait également demander son avis à notre réalisatrice Christine Robert et à son technicien Florent Layani. Nous le ferons tout à l'heure. Tout à l'heure également, c'est-à-dire à 10h50, vous retrouverez Adèle Van Rett pour le journal des Nouveaux Chemins, au terme de l'entretien que vous allez entendre maintenant en compagnie du philosophe Arnaud François et autour de la pensée de Bergson. Car c'est du temps que nous vous parlons cette semaine, depuis le début de la semaine, du temps, c'est-à-dire de Bergson, philosophe du temps par excellence.
40 secondes. Mardi, 17 novembre 2009. Au quatrième top, il sera 10h02.
Quand je suis des yeux, sur le cadran d'une horloge, le mouvement de l'aiguille qui correspond aux oscillations du pendule, je ne mesure pas de la durée, comme on paraît le croire. Je me borne à compter des simultanéités, ce qui est bien différent. En dehors de moi, dans l'espace, il n'y a jamais qu'une position unique de l'aiguille et du pendule, car des positions passées, il ne reste rien. Au-dedans de moi, un processus d'organisation ou de pénétration mutuelle des faits de conscience se poursuit, qui constitue la durée vraie. C'est parce que je dure de cette manière que je me représente ce que j'appelle les oscillations passées du pendule, en même temps que je perçois l'oscillation actuelle. Or, supprimons pour un instant le moi qui pense ces oscillations du pendule, une seule position même de ce pendule, point de durée par conséquent. Supprimons, d'autre part, le pendule et ses oscillations. Il n'y aura plus que la durée hétérogène du moi, sans moments extérieurs les uns aux autres, sans rapport avec le nombre. Ainsi, dans notre moi, il y a succession sans extériorité réciproque. En dehors du moi, extériorité réciproque sans succession. Extériorité réciproque puisque l'oscillation présente est radicalement distincte de l'oscillation antérieure qui n'est plus. Mais absence de succession, puisque la succession existe seulement pour un spectateur conscient qui se remémore le passé et juxtapose les deux oscillations ou leurs symboles dans un espace auxiliaire. Or, entre cette succession sans extériorité et cette extériorité sans succession, une espèce d'échange se produit, assez analogue à ce que les physiciens appellent un phénomène d'endosmose. Comme les phases successives de notre vie consciente qui se pénètrent cependant les unes les autres, correspondent chacune à une oscillation du pendule qui lui est simultanée, comme d'autre part, ces oscillations sont nettement distinctes puisque l'une n'est plus quand l'autre se produit. Nous contractons l'habitude d'établir la même distinction entre les moments successifs de notre vie consciente. Les oscillations du balancier la décomposent, pour ainsi dire, en parties extérieures les unes aux autres. De là l'idée erronée d'une durée interne homogène, analogue à l'espace, dont les moments identiques se suivraient sans se pénétrer.
« Bonjour Arnaud-François.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue au Nouveau Chemin de la Connaissance, bienvenue sur France Culture. C'est de Bergson qu'on va parler aujourd'hui, le génial Bergson, le merveilleux Bergson. Est-ce qu'on peut dire, pour commencer cette émission en votre compagnie, pour parler de Bergson que vous connaissez bien, on va le voir, que de son point de vue, le temps passe et qu'à cet égard, le temps n'est pas de l'espace.
Oui, le temps passe et Bergson le déclare même dans son deuxième livre Matière et Mémoire, le propre du temps est de s'écouler. Cela paraît un truisme et Bergson nous montre au contraire qu'en approfondissant cette phrase, c'est toute une nouvelle philosophie qui nécessairement en résulte, hein, la philosophie même de Bergson.
C'est-à-dire une philosophie qui renonce à spatialiser le temps, à se représenter le temps. On peut partir d'ailleurs d'une représentation tout à fait banale, ordinaire, celle d'un collégien, hein. C'est le temps représenté comme une ligne droite. Représentation linéaire et donc spatiale du temps, erreur fondamentale selon Bergson.
Voilà, c'est de là que Bergson part. Ce n'est pas d'une thèse à proprement parler ou ce n'est pas d'un concept à proprement parler, mais plutôt d'une distinction et d'une distinction critique. C'est la distinction qu'il établit dans son premier livre, l'essai sur les données immédiates de la conscience en 1889.
Dont on vient d'entendre donc un extrait,
extrait
sur le
important.
Cadran de l'horloge. C'est un extrait extrêmement important, hein, où il représente la spatialisation du temps. Le modèle même, c'est l'horloge, justement, avec la trotteuse.
Voilà, le temps spatialisé, le temps confondu avec l'espace, c'est le temps qu'on se représente quand on prend le modèle que nous livre l'horloge au sujet du temps. Et donc cette première distinction que Bergson trace, c'est la distinction, nous dit-il, entre l'espace d'un côté et puis ce qu'il appelle, alors non pas tout à fait le temps, mais la durée. Il forge un nouveau sens à ce terme durée, qui signifie le temps chez lui, mais précisément pourquoi forge-t-il un nouveau terme ? Ou donne-t-il un nouveau sens à ce terme de durée, c'est pour nous montrer qu'on a toujours manqué quelque chose du temps lui-même. Et c'est ce quelque chose du temps lui-même qui permettra de le distinguer d'avec l'espace. Et en faisant cela, Bergson crée un problème. Dès son premier livre, il ne répond pas à une question préexistante, il crée un problème qui n'existait pas auparavant.
Il constate que la réalité, c'est-à-dire le temps, et d'une étoffe telle que les mathématiques, où par ailleurs lui-même excelle, quand il écrit l'essai sur les données immédiates de la conscience, rappelons qu'il a 25 ans, hein, on est en 1889, c'est un étudiant brillant qui, après avoir eu le premier prix au concours général de mathématiques, décide de passer le concours de l'école normale en lettres, et non pas en mathématiques, ce qui lui vaudra les diatribes amères de son professeur de maths. Mais enfin, c'est quelqu'un qui découvre, qui a l'intuition de la durée, et, c'est-à-dire qui découvre que le réel ou le temps est d'une étoffe telle que les sciences où la mathématique ne parvient pas à le saisir.
C'est quelque chose de très important que vous soulignez en rappelant cette dilection que le jeune Bergson avait pour les mathématiques et ses grandes capacités qu'il avait en mathématiques. Premier prix du concours général en mathématiques, mais il a également publié un très important article dans une revue de mathématiques résolvant un problème de Pascal. Et même, on lui a confié ce qui aurait été la première chaire de philosophie des sciences en France en 1886 à l'université de Lyon. Il a refusé cette chaire parce que, dès ce moment-là, il savait qu'il ferait de la philosophie. Ce qui prouve que cette fameuse intuition de la durée, qu'il s'est donnée très jeune, ne correspond pas à une disposition psychologique chez lui. C'est comme malgré lui, comme contraint par l'évidence des faits, qu'il a dû se rendre précisément à cette évidence que le temps dure, que le temps n'est pas de l'espace, et en ce sens-là, comme vous le soulignez, que les mathématiques doivent être replacées à leur endroit propre.
Il n'est pas douteux que le temps ne se confonde d'abord pour nous avec la continuité de notre vie intérieure. Qu'est-ce que cette continuité ? Celle d'un écoulement ou d'un passage. Mais d'un écoulement et d'un passage qui se suffisent à eux-mêmes. L'écoulement n'impliquant pas une chose qui coule, et le passage ne présupposant pas des états par lesquels on passe. La chose et l'état ne sont que des instantanés, artificiellement pris sur la transition. Et cette transition, seule naturellement expérimentée, est la durée même. Elle est mémoire, mais non pas mémoire personnelle, extérieure à ce qu'elle retient, distincte d'un passé dont elle assurait la conservation. C'est une mémoire intérieure au changement lui-même, mémoire qui prolonge l'avant dans l'après et les empêche d'être de purs instantanés, apparaissant et disparaissant dans un présent qui renaîtrait sans cesse. Arnaud-François, est-ce qu'on peut dire que Bergson est le penseur de la continuité ou de la continuation indivisible, inséparable des choses.
C'est le penseur de la continuité, mais alors si on s'en tenait à cela, je crois qu'on manquerait le problème même de la durée, hein, ce que proprement a créé Bergson.
Qu'il appelle ailleurs la mélodie ininterrompue de notre vie intérieure.
Voilà, la mélodie ininterrompue, la mélodie rend bien cette image de la continuité, mais Bergson est également le penseur de l'hétérogénéité, et de l'hétérogénéité comprise comme création. Et effectivement, ce qui fait de la durée un authentique problème philosophique, hein, et non pas simplement un concept parmi d'autres qui viendraient s'ajouter à ceux de la tradition, c'est qu'il nous force à maintenir ensemble ces deux aspects, toujours continuité d'une part, mais aussi hétérogénéité de l'autre, et l'un parce que l'autre. C'est ça qu'il faut comprendre depuis le début, dès son premier ouvrage.
De là, la difficulté qui est la sienne, et d'ailleurs qui est une difficulté qu'on peut éprouver, qu'on peut vivre, dont on peut faire l'expérience, la difficulté dans laquelle il se trouve de penser justement cette continuité non séparable en instantané. En somme, le temps passe et nous sommes tentés de le découper, de le décomposer. Et en le découpant, nous le perdons. C'est-à-dire que de là, Bergson tire l'idée que l'intelligence, celle qui découpe ou qui explique les choses, nous sépare en un sens du monde par les moyens mêmes qu'elle se donne pour le connaître.
Voilà. Alors effectivement, difficulté à penser qu'il y a à la fois continuité et hétérogénéité dans le temps. Et ce que nous dit Bergson, c'est que cette difficulté n'est pas à rabattre du côté d'une incapacité du philosophe. Au contraire, Bergson prend cette difficulté tellement au sérieux qu'elle l'amènera à forger une théorie de l'intelligence elle-même. Il faudra comprendre la raison pour laquelle la durée nous est extraordinairement difficile à penser, à concevoir.
Aussi simple à éprouver que difficile à penser.
Que difficile à penser parce que, précisément, penser...
L'endosmose dont il parle, le mélange dont il parle, ce mélange indiscernable en nous-mêmes, nous l'éprouvons mais on ne peut pas le formuler.
Voilà, parce que penser sert à quelque chose, penser a une fonction. Et dans l'évolution créatrice, il sera dit que la pensée comprise comme intelligence a pour fonction de nous insérer dans le monde de la matière inerte pour nous permettre de survivre, tout simplement.
Alors, il y a deux dimensions ici de son rapport au temps. Donc, on pourrait parler de dimension de celui qui survit et de celui qui vit pleinement chez Bergson. Ces deux aspects de l'existence, peut-être ces deux sens de la vie.
Voilà, et c'est pourquoi, inversement, Bergson fera la théorie d'un autre mode d'accès que nous aurions au réel, qui ne serait pas utilitaire ou pragmatique, mais qui sera proprement contemplatif, bien qu'en même temps créateur. Et c'est ce qu'il appellera intuition. L'intuition est une coïncidence avec le temps en tant que tel.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Cela signifie...
Je pose cette question parce que l'auditeur se la pose avec moi à cet instant-là. Coïncidence avec le temps en tant que tel.
Cela signifie que le plus souvent, lorsque nous pensons, nous reconstruisons la chose. Au fond, penser, c'est un petit peu comme démonter et remonter un moteur. Et pourquoi est-ce qu'il en va ainsi ? Parce que démonter ou remonter un moteur, c'est le meilleur moyen de voir comment il est fait. C'est le meilleur moyen de le réparer ou de se donner la possibilité de construire à son tour d'autres moteurs, nous permettant éventuellement d'aller plus vite. Mais si au lieu de reconstruire, nous cherchions à nous replacer, au contraire, dans l'écoulement tel qu'il advient, se replacer, ce qui signifie en même temps épouser, être soi-même cet écoulement, alors peut-être une vision, cette fois plus juste, ou en tout cas purement théorique, nous serait-elle donnée de l'écoulement. Donc c'est la différence entre une reconstruction et puis le fait de suivre un écoulement que Bergson pense lorsqu'il oppose intelligence à intuition.
Si on regarde par exemple, je ne sais pas moi, un joueur de foot, Zidane, une roulade de Zidane ou bien un coup de génie de Maradona, enfin une intuition disons, un joueur de foot qui fait quelque chose ou McEnroe au tennis, enfin un génie du sport, quelqu'un dont l'intuition dépasse absolument toute prédiction, toute possibilité et donc émerveille les spectateurs. Il y a deux façons d'envisager ce moment, soit on le vit, on l'éprouve en même temps que celui qui accomplit ce geste qui nous émerveille, soit on décide après coup, grâce au ralenti notamment, par exemple, de recomposer ce geste, mais on pourra vainement, enfin ce sera toujours vainement qu'on essaiera de reconstituer un geste qui s'est donné comme un mouvement spontané, en lui-même indécomposable. Ce qu'on obtient quand on essaie de le redécomposer, de le penser, de lui appliquer le modèle scientifique, ce qu'on obtient, ça n'est jamais le geste lui-même.
Voilà. Alors, c'est ça que nous dit Bergson, et cette théorie de l'intuition dans sa démarcation d'avec l'intelligence a suscité beaucoup de perplexité. Il faut bien voir que c'est au contraire quelque chose d'extrêmement simple cherche à nous dire Bergson. C'est qu'entre reconstruire après coup une chose, attendre qu'elle se soit terminée pour la penser, et puis au contraire chercher à suivre la chose dans son mouvement ou dans son engendrement, il y a tout un monde. Et c'est cette distinction-là que la théorie de la connaissance aurait souvent manqué, trop souvent manquer selon Bergson, comme vous le soulignez là.
À l'origine de cela, il y a un exemple qui est pris toujours sur cette idée de spatialisation du temps, dont il faut mesurer les enjeux qui sont considérables pour Bergson, qu'il découvre dès sa thèse, délaissée sur les données immédiates de la conscience. Il y a au départ de cela deux exemples, un exemple de l'horloge, on en a parlé, l'exemple également d'Achille et la tortue. Sur lequel il faut revenir, on a déjà évoqué cet exemple au Nouveau Chemin, mais on n'en parlera jamais assez en un sens. L'exemple d'Achille la tortue, Achille court après une tortue, il court plus vite qu'elle, par définition, et pourtant, mathématiquement, en un sens, il ne la rattrape pas, Arnaud-François.
Ici, Bergson recourt à une image qui est très intéressante, comme sont souvent ces images, c'est l'image des articulations. Il nous dira que le mouvement d'Achille n'est pas absolument indivisible. C'est quelque chose que nous rencontrions tout à l'heure lorsque nous parlions de la continuité. Mais il y a également hétérogénéité, c'est-à-dire des articulations de ce mouvement. Les pas d'Achille sont des pas d'Achille, en eux-mêmes indivisibles, qui s'additionnent qualitativement pour constituer la course même d'Achille. De sorte que le mouvement d'Achille, on ne le découpe pas n'importe comment, comme on veut, arbitrairement. Et ce serait ça, l'artifice de calcul erroné, selon Bergson, de Zénon. Ce serait de considérer que le mouvement d'Achille peut être décomposé selon n'importe quelle loi, comme on décompose l'espace selon n'importe quelle loi. Et conclusion, le mouvement n'est pas découpable comme l'espace. Le mouvement est qualité. Il y a quelque chose, dit Bergson, de métaphysique dans le mouvement.
Dans le simple fait, tout simplement, qu'Achille rattrape la tortue.
La métaphysique est là. C'est ce premier coin que la métaphysique enfonce dans la spatialisation du temps. C'est le fait que Achille parvient à rattraper la tortue. C'est le fait.
Le fait même que Achille rattrape la tortue est en soi un fait métaphysique. Finalement.
C'est un fait métaphysique et non pas un fait mathématique. On a souvent cherché à rendre compte de ce fait d'une manière infinitésimale.
En divisant à l'infini l'espace qui sépare Achille de la tortue.
Et en montrant que par série convergente, il faut bien un moment où Achille finit par rattraper la tortue. Et en faisant cela, nous dit Bergson, c'est ce qu'il rencontre chez Evelyn notamment, un mathématicien, philosophe contemporain. En faisant cela, nous dit Bergson, on se place par avance au point où effectivement Achille rattrape la tortue. Mais justement, c'est manquer la question. La question est de savoir s'il parviendra à rattraper la tortue. Et pour cela, il faut épouser son mouvement, se placer dans le mouvement lui-même et non pas d'emblée en son point d'aboutissement. C'est ça l'erreur, selon Bergson.
C'est la raison également pour laquelle, d'ailleurs, quand on lit Bergson, il faut se placer dans Bergson d'emblée.
Il faut se placer
On ne peut pas le lire de l'extérieur, un peu comme pour Spinoza, d'ailleurs.
Dans Bergson, et pourtant, l'intuition sera toujours coïncidence, mais coïncidence partielle. Il y a un mouvement d'entrée et de retour, au contraire, vers la surface ou vers la profondeur, qui, en tant que mouvement, est le mouvement même de l'intuition.
Arnaud-François, comment est-ce que vous comprenez ce paradoxe qui veut que, puisque le temps passe, nous ne pouvons jamais coïncider avec nous-mêmes. Le temps passe, par conséquent, nous sommes constamment séparés de nous-mêmes, éloignés de nous-mêmes, on ne peut jamais être identique à soi. En somme, le passage du temps est un antidote, si tant est que ce soit une maladie d'ailleurs, au désir d'avoir une identité, c'est-à-dire à un moment d'être identique à soi. Finalement, pour avoir une identité, il faudrait être deux, dans deux endroits de l'espace, au même moment, donc spatialiser le temps pour dire je suis identique à moi-même. Le passage du temps et le fait que nous soyons constitués de temps, le fait que nous soyons profondément, fondamentalement temporel, dissuade finalement ou déjoue l'entreprise de construire une identité. Et dans le même temps, si j'ose dire, cette philosophie du temps plaide en faveur d'une coïncidence, d'une adhésion au monde, d'une noce finalement avec le monde qui consisterait à l'éprouver de l'intérieur. Comment expliquer ce double mouvement à la fois d'éloignement de soi et en même temps de coïncidence avec le monde, d'adhésion au réel?
Je crois qu'il y aurait deux manières de concevoir l'identité, et cela a des conséquences éthiques, morales, politiques très importantes à mon avis. On pourrait transposer cette analyse sur beaucoup de plans ou de niveaux de la réalité. On peut concevoir l'identité au passé, c'est-à-dire concevoir ce que nous sommes maintenant comme la même chose, hein, le même que ce que nous étions en commençant et que ce que nous serions restés pendant tout notre développement. Ou au contraire, on peut concevoir l'identité comme ce développement même, et c'est ce que fait Bergson hein, quand il nous parle de la substance que nous sommes ou de la substantialité du moi. Notre identité, c'est ce développement même, ce qui signifie que l'identité ne sera jamais identité qu'au présent, hein, mais un présent qui sera lourd, riche de tout le passé, et puis en même temps gros de tout l'avenir. Identité donc temporelle au sens le plus fort du terme. Et vous voyez les conséquences effectivement de tout ordre que cela peut impliquer.
L'une des conséquences par exemple, c'est l'impossibilité de quantifier les émotions.
Quantifier les émotions ou encore définir l'identité d'un sujet.
Pour le dire tout simplement, hein, deux personnes qui se disent, je ne sais pas moi, deux amoureux, l'un dit à l'autre, est-ce que tu l'aimes plus ou moins que moi? C'est une question qui n'a pas de sens d'un point de vue bergsonien. En un sens, quand on aime, on ne compte pas.
Ça n'a pas de sens d'abord parce qu'effectivement, chaque amour est unique, il y a toujours des qualités d'amour.
C'est en cela qu'il est penseur de l'hétérogénéité d'ailleurs.
De l'hétérogénéité, mais on retrouve toujours un effet de quantité ou du quantitatif au sein de la qualité elle-même, et ça Bergson ne l'oublie jamais, c'est ce qu'il appelle intensité. Il y a des intensités de vie, dit matière et mémoire, il peut y avoir des intensités d'amour, même si ça ne signifie pas qu'on mesure l'amour.
Ou qu'on peut les comparer.
On peut les comparer, mais sur une échelle qui n'est pas une échelle de mesure.
Quant à la vie psychologique, telle qu'elle se déroule sous les symboles qui la recouvrent, on s'aperçoit sans peine que le temps en est l'étoffe même. Il n'y a d'ailleurs pas d'étoffe plus résistante ni plus substantielle. Car notre durée n'est pas un instant qui remplace un instant. Il n'y aurait alors jamais que du présent, pas de prolongement du passé dans l'actuel, pas d'évolution, pas de durée concrète. La durée est le progrès continu du passé qui ronge l'avenir et qui gonfle en avançant. Du moment que le passé s'accroît sans cesse, indéfiniment aussi, il se conserve. La mémoire n'est pas une faculté de classer des souvenirs dans un tiroir ou de les inscrire sur un registre. Il n'y a pas de registre, pas de tiroir. Il n'y a même pas ici, à proprement parler, une faculté. Car une faculté s'exerce par intermittence, quand elle veut ou quand elle peut, tandis que l'amoncellement du passé sur le passé se poursuit sans trêve. En réalité, le passé se conserve de lui-même, automatiquement. Tout entier, sans doute, il nous suit à tout instant. Ce que nous avons senti, pensé, voulu depuis notre première enfance, est là, penché sur le présent qui va s'y joindre, pressant contre la porte de la conscience qui voudrait le laisser dehors.
Le mécanisme cérébral est précisément fait pour en refouler la presque totalité dans l'inconscient et pour n'introduire dans la conscience que ce qui est de nature à éclairer la situation présente, à aider l'action qui se prépare, à donner enfin un travail utile. Tout au plus, des souvenirs de luxe arrivent-ils par la porte entrebâillée à passer en contrebande. Ceux-là, messagers de l'inconscient, nous avertissent de ce que nous traînons derrière nous sans le savoir. Mais lors même que nous n'en aurions pas l'idée distincte, nous sentirions vaguement que notre passé nous reste présent. Que sommes-nous en effet? Qu'est-ce que notre caractère? Sinon, la condensation de l'histoire que nous avons vécue depuis notre naissance, avant notre naissance même, puisque nous apportons avec nous des dispositions prénatales. Sans doute, nous ne pensons qu'avec une petite partie de notre passé, mais c'est avec notre passé tout entier, y compris notre courbure d'âme originelle, que nous désirons, voulons, agissons. Notre passé se manifeste donc intégralement à nous par sa poussée et sous forme de tendance, quoiqu'une faible part seulement en devienne représentation. Arnaud François est l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance dans le cadre d'une semaine sur le temps. C'est le deuxième temps de cette semaine sur le temps. Nous sommes mardi et nous parlons de Bergson aujourd'hui, du merveilleux Henri Bergson, dont on vient d'entendre un extrait de L'évolution créatrice, un livre qui aujourd'hui a 102 ans et qui pourtant, comme d'une certaine façon le temps ne passe pas, demeure d'une actualité stupéfiante. Arnaud-François, qu'est-ce que Bergson veut dire quand il dit que la mémoire, donc qui induit notre rapport au temps, n'est pas une faculté de classer des souvenirs dans un tiroir ou de les inscrire sur un registre? Il n'y a pas de registre, il n'y a pas de tiroir, dit-il.
C'est un point très important, ça veut dire que la mémoire ne consiste pas à se représenter une certaine partie du passé. Au contraire, pour Bergson, la mémoire, c'est en un certain sens le passé lui-même. Et le souvenir n'est pas un petit morceau de représentation. Si c'est un morceau de quelque chose, c'est un morceau, encore une fois, du passé lui-même. Ce qui signifie que se remémorer une scène de notre vie précédente, ça ne sera pas regarder quelque chose, ça sera au contraire bel et bien revivre quelque chose. On vit son passé,
le
on
rejouer.
Ne le contemple pas. On le rejoue, mais alors on peut le rejouer de deux manières. D'une manière corporelle, quand on récite une leçon apprise par cœur, au contraire d'une manière toute psychologique, pure, avec des degrés d'intensité évidemment, ce que évidemment beaucoup d'écrivains ont cherché à pratiquer de mille et mille manières, et Bergson s'inspire volontiers de ce type de pratique.
Alors, dans la vie, de façon générale, il nous arrive d'éprouver quelque chose sans en avoir explicitement conscience, de vivre quelque chose, en somme de s'oublier soi-même dans l'expérience que l'on fait de quelque chose. C'est une expérience d'ailleurs assez familière à ceux qui ont la chance d'enseigner. Il arrive quand on enseigne qu'on s'oublie un peu soi-même pour véritablement être tout entier tourné vers l'objet qu'on offre à des étudiants. C'est après coup, en revanche, peut-être en regardant d'ailleurs les notes de ces étudiants, qu'on observe en somme les effets spatiaux d'une expérience intimement vécue. Est-ce que ce modèle-là est applicable à ce que Bergson décrit?
La concentration est toujours effectivement dans une certaine mesure oubli de soi. Mais alors, oubli de soi, non pas au sens où on contemplerait autre chose. On oublie de se regarder soi-même, peut-être précisément parce que c'est le moment où on est le plus soi-même. Dans les textes que vous lisiez, évidemment, Bergson recourt ici à l'image de la poussée. Une poussée qui vient de l'arrière, par opposition à une représentation qui serait donnée vers l'avant et qu'on chercherait à recopier. C'est ça, c'est cette poussée-là qui est caractère ou qui est, selon certains textes, volonté, qui nous fait oublier. Ça n'est pas un oubli, autrement dit, qui serait négatif.
Derrière cela, il y a une conception de la philosophie qui est à l'œuvre, qui pour le coup n'est pas une conception métaphysique au sens classique du terme, c'est-à-dire qui ne se représente pas la sagesse ou la philosophie comme amour de la sagesse, c'est-à-dire la sagesse comme un idéal à atteindre, mais davantage la sagesse comme le moteur qui nous fait agir ou qui peut nous mouvoir ou nous émouvoir.
Comme le moteur, peut-être, moteur parce que la philosophie elle-même serait une coïncidence, quoique une coïncidence toujours partielle, avec les flux que nous observerons, et que nous observerons au sens le plus empirique du terme. C'est ici d'une métaphysique empirique et résolument empiriste qu'il retourne. Bergson nous le dit, la métaphysique c'est l'expérience intégrale, dans un très beau passage de l'introduction à la métaphysique en 1903.
Qu'est-ce qu'il désigne par une expérience intégrale, l'intégralité d'une expérience? Est-ce que ça veut dire que c'est avec finalement l'âme tout entière, si j'ose dire, qu'il faut se convertir à la philosophie ou à ce qu'il appelle la métaphysique, c'est-à-dire à l'expérience du monde? Qu'est-ce que c'est intégral?
Ça peut signifier plusieurs choses.
Parce qu'intégral a aussi une signification mathématique.
Voilà, ça peut signifier plusieurs choses. Ça veut dire premièrement que la métaphysique c'est toute l'expérience, on n'abandonne aucune partie de l'expérience. Deuxièmement, ça signifie que la métaphysique est intégralement expérience, même lorsqu'elle est construite. C'est une construction hypothétique de lignes de fait élaborées à partir de l'expérience et qui peuvent éventuellement se rejoindre, mais le contrôle de l'expérience sera toujours premier. Et puis troisièmement, intégration possède un sens mathématique, au sens où l'on construit en mathématiques une intégrale. Et Bergson recourt également à ce modèle, puisqu'il nous dit que la philosophie vise à opérer des intégrations qualitatives. Non pas quantitatives, comme a voulu faire Spencer, en reconstruisant le monde à partir de petits morceaux, comme on construit un puzzle ou un moteur, mais au contraire, intégration qualitative, c'est avec des qualités que nous cherchons, comme quand on intègre, à retrouver un mouvement.
Disons que le tort du puzzle, par exemple, pour conserver cette métaphore, c'est que, et chacun peut le voir, devant un puzzle, on continue d'observer le dessin des pièces qui le constituent. L'intégration ici dont parle Bergson serait la dilution dans le tableau lui-même, au fond, des sinuosités de chaque pièce du puzzle.
Ben oui, là aussi il crée un problème. C'est dans l'évolution créatrice qu'intervient cette image du puzzle. Là aussi il crée un problème parce qu'il nous montre que de même qu'on a toujours confondu la durée avec l'espace sans s'en apercevoir, eh bien de même on a toujours cru que penser consistait à reconstruire ou à reconstituer. Et celui qui a fait ça d'une manière paradigmatique, je l'évoquais à l'instant, c'est Spencer, hein, le grand prédécesseur, le seul peut-être prédécesseur de Bergson, contre lequel il importait donc de se retourner vigoureusement. Spencer nous dit Bergson dans l'évolution créatrice, quand il a
voulu... Il faut rappeler qui est Spencer quand même. Allez-y Arnaud François.
Spencer n'a pas cessé de reconstituer l'évolution avec des fragments de l'évolué. Alors ce Spencer, qui était un penseur aujourd'hui très oublié du 19e siècle, qui a cherché à élaborer toute une cosmologie à partir du principe d'évolution. Il était à peu près contemporain de Darwin et il y a des disputes de priorité sur celui qui aurait le premier forgé une véritable théorie de l'évolution à cette période de l'histoire des sciences et de la philosophie. Spencer a cherché en tout cas, plus que Darwin, à appliquer le principe d'évolution au cosmos en général, mais également à la sociologie, à l'éthique, à la psychologie. Et Bergson, par anticantisme pour ainsi dire, a commencé par être fasciné par ce Spencer. Mais il a fallu se retourner contre lui par la suite, et c'est ce qu'il fait dans l'évolution créatrice, en 1907.
Celui qui reconstitue de l'évolution avec des fragments de l'évolué, il est un peu dans la position de celui qui, avec des morceaux de corps humain, reconstitue ou constitue Frankenstein, par exemple. Dans la position de Frankenstein, constituant un animal, hein, enfin, ou un animal humain.
Et c'est ça qui produit tout l'intérêt, évidemment, de ce type de fiction à partir de Mary Shelley. On se demande comment il est possible de reconstituer un vivant avec des fragments de mort. S'il n'y avait pas de paradoxe ici ou d'impossibilité manifeste ici, il n'y aurait pas d'expérience littéraire, peut-être.
De sorte que nous sommes finalement assez spontanément bergsoniens. Chacun sait intuitivement qu'il est impossible de reconstituer la vie avec des morceaux de corps mort.
Nous sommes spontanément bergsoniens, mais nous commençons par être, pour ainsi dire, frankensteiniens. Nous sommes chacun des deux, mais d'une manière différente. Nous sommes frankensteiniens en tant que nous agissons, et nous sommes bergsoniens en tant que nous contemplons, sans doute.
Écoutez, à midi.
Quelle heure est-il ?
Il est midi.
C'est l'heure de déjeuner.
Qu'est-ce qu'il y a à manger ?
Des saucisses. Sans doute.
Écoutez et répétez. À midi, à midi, à midi.
Quelle heure est-il ? Quelle heure ? Quelle heure est-il ? Est-il ? Quelle heure est-il ?
Il est midi, midi, midi. Il est midi. Il est midi.
C'est l'heure de déjeuner. C'est l'heure. C'est l'heure de déjeuner. De déjeuner.
Il n'est pas du tout midi, on vous dit n'importe quoi. Il est 10h32 sur France Culture. Vous écoutez Les Nouveaux Chemins de la Connaissance.
Qu'est-ce qu'il y a à manger ? Qu'est-ce qu'il y a ?
Et Arnaud François est l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance aujourd'hui pour parler de Bergson. Arnaud François, qu'en est-il à partir de sa conception du temps, donc de ce temps continu, de ce temps non divisible, de ce temps qui nous renvoie finalement ou qui est une invitation, de ce temps qui nous constitue, c'est-à-dire que nous ne sommes pas accidentellement temporels comme on serait accidentellement de gauche ou de droite, comme on serait accidentellement, j'allais dire presque blond ou brun en un sens, hein, mais on est fondamentalement, profondément temporel, c'est-à-dire que le temps passe, c'est-à-dire que nous passons avec lui, et par là même, la pensée de Bergson est une invitation à reconquérir l'intériorité qui nous constitue et que nous avons diluée dans la vie quotidienne, dans la nécessité de survivre, dans les besoins pratiques, dans le sens de l'utile. Qu'en est-il chez Bergson à partir de cette définition du temps qu'il élabore, de ce temps intime, de cette mélodie ininterrompue de notre vie intérieure, qu'en est-il de la liberté ?
Alors, qu'en est-il de la liberté ? C'est l'objet même du troisième chapitre du premier livre de Bergson, hein, celui qui a été sa thèse de doctorat, à savoir, nous l'avons déjà vu, l'essai sur les données immédiates de la conscience en 1889.
Qui est une machine de guerre contre le positivisme de son temps et des autres d'ailleurs.
Contre un certain positivisme, effectivement, oui, et une machine de guerre sans doute très efficace. non seulement contre le positivisme, disiez-vous, mais également contre beaucoup de pensées de la liberté. On se pose souvent le problème de la liberté en se demandant si être libre, c'est obéir aux prescriptions rationnelles ou au contraire désobéir aux prescriptions rationnelles.
Ou encore, on pense la liberté dans un rapport finalement à une contrainte qui viendrait de l'extérieur.
Exactement, et ça se retrouve dans une autre manière de poser le problème, qui serait cette fois non plus celle de Descartes, mais celle de Kant, quand on se demande si être libre, c'est introduire un acte parfaitement inintelligible du point de vue des lois naturelles, et puisque c'est inintelligible, alors Kant se demande, eh bien non, comment peut-on faire pour être libre? Et Bergson dira, il déplace avec beaucoup de respect la liberté de la sphère de la nature jusqu'à la sphère du noumène, hein, jusqu'à la sphère qui est seulement pensable.
De l'absolu, au fond. De l'absolu, la liberté comme un fait absolu dans la trame du déterminisme naturel, il y a un fait absolu qui est celui de la liberté.
Un absolu qui serait en dehors de la nature et de l'expérience, tandis que Bergson cherchera à considérer au contraire notre expérience elle-même comme un absolu. Et c'est ce qu'il fait précisément dans ce troisième chapitre de l'essai sur les données immédiates de la conscience. Puisque la liberté n'y est plus obéissance ou désobéissance à la raison, obéissance ou désobéissance à la nature, hein, mais au contraire conformité à soi. Hein, et pour cela, Bergson a une magnifique image. Il dit que l'acte libre ressemble à son auteur, hein, de cette ressemblance qu'on trouve parfois entre l'œuvre et l'artiste. Hein, c'est la liberté comprise comme conformité à soi, c'est-à-dire à son histoire, autrement dit au temps qui est le nôtre. Hein. Je suis libre quand je suis le plus profondément temporel et le plus profondément moi.
Peut-être pour le dire autrement, et en même temps aller dans votre sens, Arnaud François, on pourrait dire, voilà, il y a deux figures de la liberté, deux figures classiques. Il y a le libre arbitre qui dit non, qui s'oppose à l'ordre naturel ou qui prétend le faire. Libre arbitre qui pose toute une série de problèmes, hein, ça n'est pas ici le lieu de l'examiner. Mais bon, donc une liberté pensée comme le sentiment d'être l'origine de ses actes. Et puis de l'autre côté, donc la liberté de celui qui dit « je fais ce que je veux ». Et puis de l'autre côté, il y aurait une liberté plus stoïcienne finalement, au sens où il ne s'agit plus de faire ce qu'on veut, puisqu'on ne peut pas faire ce qu'on veut, mais de vouloir ce qu'on fait. Ce serait déjà ça, si vous voulez. Mais dans les deux cas, ces deux modalités de la liberté, ces deux conceptions de la liberté, mettent la liberté en rapport à de l'espace, à la possibilité de mon champ d'action, à la valeur que j'attribue aux actions qui sont les miennes, ou en tout cas à leur influence sur le monde, à leur représentation, à la quantité finalement d'actions qu'elles permettent. Il y aurait chez Bergson peut-être une troisième terme de la liberté, une troisième voie qui serait non plus de faire ce qu'on veut ni de vouloir ce qu'on fait, mais tout simplement de, paradoxalement, de devenir ce qu'on est à la façon du peintre qui obéit à la nécessité qui le porte à peindre la Joconde ou bien le carré noir sur fond blanc.
Tout à fait. On trouverait chez Bergson sans doute un recours. Hein,
une liberté intime, au fond.
Voilà, sans doute un recours au modèle de l'artiste pour penser la liberté. C'est-à-dire qu'être libre, c'est créer, hein, faire advenir quelque chose qui n'était pas auparavant, mais qui en même temps est ce qui me ressemble le plus. Et dans quel domaine est-ce qu'on retrouve sans doute le mieux ce double caractère, un petit peu antinomique? Eh bien, c'est dans le domaine de l'art. Effectivement, l'artiste, d'une part, se prolonge lui-même, se met tout entier lui-même dans son œuvre, et puis pourtant, cette œuvre n'existait pas avant, ça n'est pas simplement un modèle que l'on a recopié. Hein, on distingue le créateur et le copiste, évidemment, en art. Et donc le paradoxe ici, c'est que créer quelque chose de neuf, c'est en même temps agir le plus en conformité avec soi. Continuité et hétérogénéité.
De sorte qu'il n'y a pas de création ex nihilo chez Bergson.
Il n'y a pas de création ex nihilo, il n'y a même pas de néant, il n'y a même pas de nihil pour Bergson.
L'idée même de néant chez Bergson résulte, dit-il, d'une attente déçue. Au fond, il prend l'exemple d'un livre qu'on ouvre et on dit on cherche des vers en ouvrant un livre. Alors si on ouvre La recherche du temps perdu, par exemple, on cherche des vers, on n'en trouve pas et on dit ce ne sont pas des vers. Or, pourtant, dit Bergson, nous n'avons pas vu une absence de vers. Mais relativement à l'attente qui était la nôtre, nous sommes déçus. Par conséquent, ce qu'on appelle le rien ou le néant, dit-il, exportant ce modèle justement à des questions fondamentales et ontologiques, c'est toujours l'effet d'une attente déçue de la part de l'homme. D'un homme qui prend ses désirs pour des réalités.
Ses désirs pour des réalités, ou encore on entre dans une chambre, on n'y voit pas ce qu'on y attendait, on dit « bon, bah, il n'y a rien », alors qu'en fait il n'y a pas rien, il y a toujours des molécules d'oxygène. Quand on dit qu'il n'y a rien, c'est simplement une attente déçue. Ce qui montre d'ailleurs chez Bergson une certaine manière d'opérer une généalogie, hein, de nos idées erronées, constitutives des systèmes philosophiques intellectualistes selon lui, une généalogie de ces idées à partir de l'affect, à partir de la déception. Ça, c'est une tentative extrêmement novatrice, extrêmement radicale, extrêmement moderne.
Et qui en a inspiré plus d'un, à commencer par celui qui était garçon d'honneur à son mariage, c'est-à-dire Proust. Dans Un amour de Swann, Proust, l'un des plus beaux passages peut-être d'Un amour de Swann, c'est difficile à dire d'ailleurs parce que tout est beau, c'est le moment où, l'un des moments où Swann entend la fameuse petite phrase de Vinteuil, où on a effectivement le sentiment en permanence que le narrateur convertit la déception, en l'occurrence la déception de Swann, en création pure, et de la matière d'une déception, il rétablit ce qu'on peut appeler la réalité. Voici comment cette conversion, en un sens, s'opère dans Un amour de Swann. Écoutez.
À un moment donné, sans pouvoir nettement distinguer un contour, donner un nom à ce qui lui plaisait, charmé tout d'un coup, il avait cherché à recueillir la phrase ou l'harmonie, il ne savait lui-même, qui passait et qui lui avait ouvert plus largement l'âme, comme certaines odeurs de roses circulant dans l'air humide du soir ont la propriété de dilater nos narines. Peut-être est-ce parce qu'il ne savait pas la musique qu'il avait pu éprouver une impression aussi confuse. Une de ces impressions qui sont peut-être pourtant les seules purement musicales, inattendues, entièrement originales, irréductibles à tout autre ordre d'impression. Une impression de ce genre, pendant un instant, est pour ainsi dire sine materia. Sans doute, les notes que nous entendons alors tendent déjà, selon leur hauteur et leur quantité, à couvrir devant nos yeux des surfaces de dimensions variées, à tracer des arabesques, à nous donner des sensations de largeur, de ténuité, de stabilité, de caprice. Mais les notes sont évanouies avant que ces sensations soient assez formées en nous pour ne pas être submergées par celles qu'éveillent déjà les notes suivantes ou même simultanées. Et cette impression continuerait à envelopper de sa liquidité et de son fondu les motifs qui par instant en émergent, à peine discernables, pour plonger aussitôt et disparaître, connus seulement par le plaisir particulier qu'ils donnent, impossibles à décrire, à se rappeler, à nommer, ineffables. Si la mémoire, comme un ouvrier qui travaille à établir des fondations durables au milieu des flots, en fabriquant pour nous des facsimilés de ces phrases fugitives, ne nous permettait de les comparer à celles qui leur succèdent et de les différencier. Ainsi, à peine la sensation délicieuse que Swann avait ressentie était-elle expirée, que sa mémoire lui en avait fourni séance tenante une transcription sommaire et provisoire, mais sur laquelle il avait jeté les yeux, tandis que le morceau continuait, si bien que, quand la même impression était tout d'un coup revenue, elle n'était déjà plus insaisissable.
C'est merveilleux, Arnaud François, d'être au milieu de la traduction littéraire d'un problème philosophique. Il n'y a pas de meilleure expression, peut-être, de ce que Bergson dit de la durée qu'un texte comme celui-ci.
Il n'y a pas de meilleure expression au sens où, effectivement, Bergson s'est souvent appuyé sur des modèles musicaux. On parlait tout à l'heure des modèles artistiques. En particulier, c'est les modèles musicaux qui l'intéressaient, plus peut-être que les modèles picturaux et visuels. Parce que dans la musique...
On peut comprendre pourquoi, d'ailleurs.
Parce que dans la musique, et Bergson n'est pas le premier à le souligner, il y a une dimension essentiellement temporelle. Seulement, ça n'est pas le seul aspect. On trouvera chez Bergson de magnifiques analyses sur le timbre, l'émotion, dans son dernier livre, Les deux sources de la morale et de la religion, 1932, a toujours un timbre. Ou encore, il y a le rythme de durée des matières et mémoires qui permet de concevoir comment il y a plusieurs durées. Et puis, il y a des exemples de l'harmonie qui se trouve dès l'essai sur les données immédiates de la conscience. Toutes ces dimensions musicales sont envisagées par lui.
Ici, on a un morceau de musique qui ouvre l'âme de celui qui l'écoute. Plusieurs éléments typiquement bergsoniens, peut-être, dit Proust, parce qu'il ne savait pas la musique. En d'autres termes, ce que nous savons bien souvent s'interpose entre nous-mêmes et ce que nous pouvons éprouver de la chose, dans la mesure où ce que nous savons nous fait courir le risque de se métaboliser ou transformer en préjugés, et par conséquent de rigidifier finalement la perception que nous pouvons avoir du monde. Et un peu plus loin, il parle de ces impressions qui tracent des arabesques, donnent des sensations de largeur, de ténuité, de stabilité, de caprice, mais qui s'évanouissent avant même que ces sensations soient déjà formées, au sens où le temps finalement l'emporte ici sur l'espace et on accède donc à ce que Proust appelle un peu de temps à l'état pur, c'est-à-dire de durée.
Un peu de temps à l'état pur, là aussi c'est une expression dont on retrouverait presque l'équivalent chez Bergson. Il parle de la durée pure, au sens d'une durée qui est saisie immédiatement, directement, sans interposition du voile spatial. Et ce voile spatial est en un certain sens effectivement notre savoir, ou du moins un certain type de savoir, parce que la métaphysique même, ou la connaissance intuitive et absolue de la durée, demeure pour Bergson un savoir. Hein, je dis connaissance, il parle d'une connaissance, il y a des résultats que l'on peut accumuler, discuter, par cette coïncidence elle-même qui est expérience, par cette coïncidence elle-même avec la durée. Simplement, il s'agit d'un savoir qui doit toujours être modulé selon ce qu'il appelle des rythmes ou des degrés de tension, et non pas un savoir qui tiendrait dans des manuels tels que ceux que Spencer a pu produire.
Ni un savoir qui se donnerait sous couvert d'objectivité des objets stables. On dit souvent qu'il est impossible de penser quelque chose de mobile ou quelque chose en devenir. Or, si l'on articule la pensée, si la pensée est tributaire en elle-même du devenir qu'elle essaie de penser, si la pensée essaie de s'acclimater finalement à la nature meuble de l'objet qu'elle ne peut pas véritablement saisir, mais dont elle doit épouser les sinuosités, le mouvement en somme de l'intérieur, alors on parvient à penser ce qui ne tient pas en place.
C'est difficile, effectivement, parce que là encore on a un problème. Pourquoi est-il difficile de penser le mouvant? Parce que pour Bergson, penser ou connaître une chose authentiquement, ça ne peut pas être autre chose que d'être cette chose. Simplement, si on se contentait d'être cette chose, comme le sphex amophile est dans l'évolution créatrice la chenille qu'il s'efforce de piquer, c'est ici la description de l'instinct, si on se contentait d'être cette chose...
Il faut préciser en un mot ce qu'est le sphex ici, c'est-à-dire que d'instinct, il sait exactement où piquer.
Voilà, c'est cette espèce de guêpe qui d'instinct sait exactement qu'il faut piquer la chenille pour la paralyser sur tel ou tel anneau et non pas sur ceux qui sont juste à côté. Il y parvient le plus souvent avec une précision déroutante. C'est là l'œuvre propre de l'instinct, que cette précision qui déroute l'intelligence. Eh bien, si nous nous contentions d'être simplement la chose que nous visons à connaître, alors évidemment, nous ne la connaîtrions même pas. Nous serions obscurcis dans notre coïncidence.
On ne peut pas être et savoir en même temps.
Et c'est pourquoi il faut toujours, cependant, cette distance minimale que nous ne pouvons tenir que de l'intelligence. Et l'intuition, selon Bergson, ne sera pas un simple prolongement de l'instinct du sphex amophile, ce prolongement sera toujours matiné par un élément extérieur qui sera l'intelligence. Il faut garder ce surplomb minimal, et c'est ce que résume la formule citée plus haut et sur laquelle Merleau-Ponty a beaucoup insisté quand il lisait Bergson, coïncidence, mais coïncidence partielle.
Coïncidence partielle où se retrouve pour le coup ce qui fait l'humanité de l'homme, le propre de l'homme, c'est-à-dire son intelligence, et se retrouve également la liberté qui est la sienne de se servir des découvertes que l'instinct, par exemple, lui propose ou que l'intuition lui propose.
Se servir des découvertes parce que dans partiel, il y a l'idée de partiel de différentes manières. Il y a ici des degrés d'intensité qui sont en même temps les degrés du surplomb que nous pouvons prendre par rapport à la chose. Nous pouvons moduler...
Moins on est en surplomb, plus on est dans l'intensité.
Plus on est dans l'intensité, mais au contraire, lorsque l'on prend plus de surplomb, que nous survolons, que nous adoptons une pensée du survol à l'égard de la chose, nous nous rapprochons d'autant de l'action et des usages pratiques de notre connaissance, sans doute. Et c'est cela que Bergson envisage dans les deux sources quand il parlera du machinisme, de la technique. C'est un des grands penseurs à l'heure actuelle de ces phénomènes.
Penseur de la technique, en peu de mots, dans la mesure où il pense la possibilité de ne pas être rendu fou par elle, ni être en situation de domination.
Bah, parce qu'il a une thèse sur la technique, qui est que la technique n'est pas l'opposé de ce qu'il appelle alors l'émotion, hein, ou l'émotion notamment religieuse ou morale.
Mais son prolongement.
Mais son prolongement, ou encore l'autre visage, hein, de la même tendance qui tient de l'ouverture, c'est-à-dire qui tient de la durée. Ça, c'est une thèse originale, hein, sur la technique, qui demande à être confrontée aux autres grandes thèses sur la technique de Heidegger, de Simondon ou d'autres.
On aura d'autres occasions de le faire en votre compagnie. J'espère. Certainement, Arnaud-François, merci d'être venu. Alors un grand merci donc Arnaud-François. Pour tous ceux qui ont envie de comprendre Bergson, c'est-à-dire de l'éprouver, je renvoie à votre petit Bergson, paru chez Ellipse, une étude thématique de Bergson, assortie d'une anthologie expliquée. Tout ça est limpide et parfaitement utile pour le coup, n'en déplaise à Bergson. Je signale également la parution récente, donc dans le cadre de la réédition des œuvres complètes de Bergson aux presses universitaires de France, de L'énergie spirituelle, un recueil génial d'articles et de durée et simultanéité. Et je renvoie à notre site internet pour le nom de tous ses contributeurs. Parmi ses contributeurs, il y a également Camille Riquier. Camille Riquier qui signe aux presses universitaires de France une archéologie de Bergson, temps et métaphysique, dans la collection Épiméthée. Et sous les scratchs de Pierre-Henri et de sa messe pour le temps présent, on retrouve à 10h50 le journal des Nouveaux Chemins avec Adèle Van Rett. Bonjour Adèle.
Bonjour Raphaël.
Autre génie, devenir Céline.
Oui, Céline, Louis-Ferdinand Céline, l'inventeur de l'utilisation obsessionnelle des points de suspension en littérature. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas tant parler de son œuvre elle-même que de sa genèse et des éléments biographiques dans lesquels l'écrivain a puisé, qu'il a modelé pour en faire son œuvre. C'est donc le passage de l'homme, Louis Destouches, à l'écrivain, Céline, que nous évoquons aujourd'hui à l'occasion de la parution des lettres inédites de Louis Destouches et de quelques autres chez Gallimard dans une édition de Véronique Robert-Chauvin qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
On trouve dans ce livre des lettres inédites issues de la correspondance croisée de Louis Destouches avec ses proches pendant la période la plus formatrice de sa vie, puisque les 7 années qui vont de 1912 à 1919 correspondent aux années durant lesquelles Céline va découvrir d'abord la guerre, puis l'Afrique et la médecine. Or, ce sont 3 thèmes qui vont se retrouver dans ses écrits, et très vite, dès son premier roman, Voyage au bout de la nuit, qui paraît en 1932. Est-ce que c'est en ce sens, Véronique Robert-Chauvin, qu'on peut dire que ces années, et le reflet de ces années que sont ces lettres, permettent de montrer comment Louis Destouches est véritablement devenu Céline?
Oui, absolument. Parce que ces lettres retracent la période où il a vécu la guerre de 14, qui pour lui a été un choc, un traumatisme. Et au niveau de la jeunesse, c'est absolument déterminant. Et l'intérêt de ces lettres, c'est de nous le montrer en train de vivre en direct ce choc. Et ces lettres, il y en a beaucoup qui... Toutes celles qui sont dans ce recueil sont inédites. Et donc, on a un ordre chronologique et on assiste petit à petit à Céline recevant la guerre en pleine figure. Voilà. Et alors, ce qui est très, très intéressant, c'est de noter que c'est un Céline optimiste qu'on découvre. C'est-à-dire, il part la fleur au fusil, il est sûr de gagner. C'est un Céline qui est très, très touchant, qui est très affectif, affectueux, rassurant pour ses parents. C'est un Céline, c'est une autre image.
Exactement, c'est une autre image. On redécouvre un Céline qui nous est complètement inconnu, puisqu'il n'est pas du tout présent dans ses œuvres. Par exemple, lorsqu'il est sur le front et qu'il écrit à ses parents, il écrit que maman se rassure, la balle qui doit me tuer n'est pas encore prête d'arriver à destination. Et on découvre un Céline protecteur, affectueux, qui se veut rassurant et optimiste,
oui.
Mais on voit aussi au fil de ces lettres et de cette correspondance l'évolution de cet optimisme, et notamment après le passage en Afrique, où on a l'impression, d'après les lettres que Céline écrit lui-même, l'Afrique est le lieu où cet optimisme va se changer en pessimisme et où ce tempérament plutôt assuré et protecteur va devenir misogyne.
Misanthrope. Non, mais c'est vrai. Mais surtout, en Afrique, ce qui est très très important, c'est qu'il va commencer à prendre de la distance. Il n'est pas encore complètement misanthrope. Il prend de la distance par rapport à la guerre et surtout à son optimisme. Mais ce qui pour lui est très important, c'est de se dire que finalement...
en Afrique, je cite l'épisode de l'Afrique, parce que ce qui est très important en Afrique, c'est que c'est là où Céline découvre les deux activités qui seront au cœur de sa vie par la suite. C'est là où il se livre à l'écriture de ses premiers essais littéraires, et c'est là où il réalise ses premières expériences d'ordre médical.
Oui, peut-être en Angleterre aussi, avant, il a commencé à exercer un petit peu la médecine, mais ça, on n'en est pas sûr. Ça, on n'a pas encore des documents qui peuvent nous le prouver. Mais c'est effectivement en Afrique qu'il va construire sa personnalité et qu'il va se forger une armure, si vous voulez. Parce que quand il est arrivé pour vivre la guerre, il était complètement... il dit, on est parti dans la vie avec les conseils des parents, ils n'ont pas tenu devant l'existence. Et c'est vrai, et à ce moment-là, il va construire un personnage un petit peu cynique, et puis...
Qui est bien loin de la tendresse qu'il exprimait pour ses parents dans les premières lettres. Oui. Alors, Véronique Robert-Chevin, vous publiez ce livre, donc Devenir Céline, qui sort en même temps qu'un recueil de lettres de Céline en Pléiade.
Oui.
Donc pourquoi avoir pris la décision de publier ce recueil de lettres qui finalement se trouvent toutes déjà en Pléiade ?
Parce que toutes, enfin pas complètement, mais parce que c'est une histoire très personnelle qui est arrivé avec la femme, la veuve de Céline, qui est toujours là avec nous, qui a 97 ans.
Lucette Destouches.
Lucette Destouches, qui m'a donné un jour toutes ses lettres inédites et m'a dit qu'elle souhaitait que je m'en occupe et que je les édite. Parce que c'est vrai que ça présente un Céline. Et moi, pour moi, ce qui est très important aussi et que je tiens à dire, c'est qu'on parle toujours de Céline, le monstre, l'antisémite, la haine. Et absolument pas. Céline, c'est un peu ce qu'en dit Solers, c'est-à-dire que c'est un enfant innocent dans un monde coupable. Et finalement, la guerre, c'est ce monde coupable. Et lui, l'enfant innocent, c'est toujours ce qu'il a été. C'est-à-dire que même toute cette folie des pamphlets et de tout son antisémitisme et cette haine sur laquelle on s'attache essentiellement, ça s'explique, ça découle de ces lettres-là. Et c'est pour ça qu'avec Antoine Gallimard, on a souhaité les publier à part, pour mettre un coup de projecteur particulier sur cette période.
Donc c'est pour insister sur la dimension, sur une dimension du personnage de Céline que l'on connaît moins, et donc montrer en quel sens la genèse de son œuvre ne passe pas nécessairement par le développement d'une haine envers la société, d'un antisémitisme. C'est pour essayer de casser cette image de Céline.
Exactement. Pour essayer de comprendre Céline et se dire que finalement, c'est vrai que tous ceux qui ont vécu la guerre de 14, ils en sont sortis traumatisés. Tout le monde n'a pas réagi comme lui, mais c'est vrai que s'il a réagi comme ça, c'est en même temps c'était contre lui-même qu'il écrivait, parce qu'il s'en est voulu à lui, c'était de l'intérieur, parce que la guerre, c'est l'instinct de mort finalement de Freud, c'était une espèce de pulsion terrible qui en même temps déclenchait de la jouissance. Et dans certaines lettres, on en a la preuve.
Merci Véronique Robert-Chevin. Je rappelle donc que vous avez coordonné cette édition Devenir Céline, lettres inédites de Louis Destouches et de quelques autres de 1912 à 1919, qu'on trouve donc en ce moment chez Gallimard.
Et Adèle, que trouve-t-on également dans nos étals ?
Alors, non pas dans les étals, mais un autre colloque. Le 24 novembre prochain marquera le 150e anniversaire de la publication de L'origine des espèces de Charles Darwin. À cette occasion, un colloque se tiendra le 23 novembre, donc lundi prochain, à l'Université interdisciplinaire de Paris, en partenariat avec l'UNESCO. 150 ans après Darwin, de nouvelles pistes pour comprendre l'évolution, c'est le titre de ce colloque, qui se veut surtout scientifique, mais qui présente un intérêt philosophique certain, à en croire le titre de certaines interventions qui auront lieu au cours de cette journée. années. À titre d'exemple, le neurobiologiste Jean-Pierre Rospart se demandera si l'évolution biologique est le fruit du seul hasard, ce qui peut être intéressant pour réfléchir au rôle du hasard dans l'évolution et donc prolonger la réflexion sur le hasard que les Nouveaux Chemins avaient amorcé le mois dernier.
Effectivement, on peut le voir comme ça. Merci, en tout cas, c'est noté et on renvoie évidemment à notre site internet pour toutes ces informations. Bergson, Céline, Darwin, la misogynie qui est l'autre nom de la misanthropie, c'était le programme du jour dans les Nouveaux Chemins de la connaissance. Les Nouveaux Chemins que vous retrouvez demain à 10h pour la suite de cette semaine sur le temps, dans le temps. Demain, c'est de Balzac que nous parlerons, figurez-vous, de la temporalité dans l'œuvre de Balzac en compagnie de l'universitaire Nicole Mosé. Les Nouveaux Chemins que vous pouvez également retrouver à toute heure, si le cœur vous en dit, sur Internet, sur le site de France Culture, à la page donc des Nouveaux Chemins, où vous pourrez télécharger chaque émission, retrouver la bibliographie de tous nos invités, en l'occurrence par exemple la liste des œuvres complètes de Bergson, rééditées aux presses universitaires de France.